Chapitre 36. Descendre le flanc de la montagne sous le crachin fut bien plus pénible que l'ascension l'avait été quelques jours plus tôt. Alors qu'il marchait en tête, Richard se demanda combien d'habitants de Stroïsa, depuis que le village de Grotte existait, avaient glissé sur la roche mouillée et fait le grand plongeon. Relevant la tête, le sourcier aperçut les gens massés devant l'entrée de la caverne pour les suivre du regard, Samantha et lui. Une descente périlleuse en prologue d'un voyage tout aussi risqué vers un pays inconnu. De quoi se demander à juste titre si le seigneur Hall et la jeune magicienne reviendraient un jour? Richard ne pouvait pas se poser cette question. Callan avait besoin d'aide. S'il échouait, elle n'avait plus longtemps à vivre. Tandis que Callan et lui remplissaient leur sac à dos, Richard avait résumé la situation à des villageois venus les aider. Manquant de temps pour parler à tous les habitants de Stroïsa, il avait chargé Esther et les quelques hommes et femmes présents d'être ses porte-paroles. Les Terres Noires étaient depuis toujours un endroit dangereux. Depuis la soudaine apparition de la Pitié Silence, suivie par le massacre de tout un détachement de soldats d'élite, les villageois étaient déjà en état d'alerte. Bien entendu, l'attaque qui avait coûté la vie à tant des leurs avait encore renforcé leur vigilance. En conséquence, ils ne risquaient pas de prendre à la légère les mises en garde du seigneur Hall. Profitant de l'occasion qui s'offrait à lui, Richard avait lourdement insisté sur la nature inédite de la menace venue du Troisième Royaume. Comme lui, jusqu'à ces derniers temps, aucun villageois n'avait jamais imaginé que puissent exister des humains, enfin des demi-humains, convaincus d'être en mesure de voler l'âme d'une personne en la mangeant. Comme à Esther, il avait recommandé à son auditoire d'éviter de descendre dans les champs, sauf pour des raisons vitales, et dans ce cas, en groupe, et en gardant sans cesse à l'esprit l'éventualité d'une attaque. Les villageois, avait-il appris avec satisfaction, évitaient déjà de descendre depuis le soir maudit du massacre. Quelques groupes d'hommes étaient quand même allés s'occuper des animaux, mais sans s'attarder car ils craignaient que d'autres monstrueux tueurs rôdent dans les environs. Une saine appréhension, leur avait confirmé Richard, et à garder en tête, même si aucun ennemi ne s'était montré depuis l'attaque surprise. L'étroitesse de la corniche était au fond une chance. La difficulté de l'ascension restait la meilleure défense de Stroïsa, surtout depuis que des sentinelles scrutaient sans cesse le versant. Avant le drame, la garde avait à l'évidence été insuffisante, mais ça ne se reproduirait plus. Alors qu'il marquait une pause pour balayer le panorama du regard, Richard songea que les sorciers, à l'époque de Nadja Moon, avaient probablement choisi cet emplacement pour des raisons tactiques. Il se pouvait même qu'ils aient construit le village afin de fournir à ses habitants une sorte de place forte. Mais ça, c'était impossible à prouver, même si Richard penchait très fortement pour cette thèse. Cela dit, que ce soit à cause du plan initial ou qu'il s'agisse d'une évolution imprévue, les habitants de Stroïsa n'avaient rien de guerrier compétent. Alors qu'ils portaient tous des couteaux, n'avaient-ils pas frappé avec des pierres les agresseurs du sorcier ? Bien que la méthode dans ce cas précis ait été efficace, Richard leur avait conseillé de ne plus s'y fier aveuglément à l'avenir et de ne jamais s'aventurer en bas sans une lame. Quand on luttait pour sa vie, une pierre pouvait être utile, mais un couteau valait 10 fois mieux. Bien sûr, la mission de ces gens était de guetter et de donner l'alerte s'il se passait quelque chose. À l'évidence, ils n'avaient jamais été placés là pour enrayer une invasion et livrer une guerre. À présent, un antique conflit embrasait de nouveau le monde et ils allaient devoir lutter pour leur peau jusqu'à ce que Richard ait ramené la paix. Présent dans la petite foule qui se pressait autour de Richard et de Samantha, Henrik avait demandé à venir avec eux. Pour l'en décourager sans le frustrer, Richard lui avait demandé de rester et de veiller sur Callan. De fait, quand elle reprendrait conscience, le gamin serait pour elle une précieuse source d'informations. Et quand il aurait raconté sa partie de l'histoire, Esther la compléterait. Callan avait tiré le gamin des griffes de la Pitié Silence. Depuis, il lui vouait une fervente loyauté. Du coup, Richard n'avait pas dû beaucoup insister pour qu'il reste avec elle. Avant de négocier un passage particulièrement sinueux, Richard rectifia la position de l'arc qu'il portait accroché à l'épaule. Quand la nécessité de regarder où il mettait les pieds se faisait un peu moins pressante, il sondait la forêt qui s'étendait à ses pieds, attentif au moindre signe susceptible d'annoncer une embuscade. Ne rien voir d'alarmant n'apaisa pas son inquiétude. Rien n'était plus redoutable en réalité qu'une menace invisible. Derrière lui, Samantha caracolait le long de la corniche avec l'insouciance d'un mouflon. Quand un passage s'annonçait délicat pour Richard, elle marquait une pause, histoire de ne pas risquer de le percuter. Le sourcier allait pourtant à une vitesse des plus respectables, mais la jeune fille avait grandi ici, montant et descendant presque chaque jour. Connaissant le chemin comme sa poche, elle avait un énorme avantage sur son compagnon. À moins qu'elle soit totalement irresponsable, tout simplement. Quand il atteignit le champ de rochers au pied de la montagne, Richard sonda de nouveau le terrain, au-delà des installations et des champs des villageois, jusqu'à la lisière de la forêt. Tout semblait paisible. En revanche, les oies et les volailles caquetaient d'abondance. Comme elles étaient restées parfaitement silencieuses jusqu'à ce que Richard et Samantha aient atteint le sol, ce n'était probablement pas inquiétant. En sortant du champ de rochers, Richard remarqua que les autres animaux étaient bizarrement silencieux. Sous le toit de leur bergerie sans cloison, les moutons se pressaient les uns contre les autres. Pour se protéger de la pluie ou parce que quelque chose les effrayait? Pareillement, les cochons s'étaient réfugiés dans un coin de leur enclos et ne bronchaient pas. Richard sonda le sol trempé en quête de traces d'un éventuel intrus. Mais comment les reconnaître alors que des dizaines de villageois venus soigner les bêtes avaient laissé leurs empreintes partout? Soudain, Richard repéra des traces qui l'incitèrent à s'arrêter. À Stroiza, tout le monde portait de solides chaussures ou des bottes. Là, l'empreinte gauche était celle d'un pied nu. Plus troublant encore, celle de droite, lisse mais irrégulière, ne ressemblait pas à celle d'une semelle, comme si le pied du marcheur avait été enveloppé dans du tissu. Alors que Richard relevait la tête, un homme aux yeux noirs enfoncés dans leurs orbites jaillit de derrière le poulailler.